Chapitre 4. Le mot de la première énigme. Rick était fort intrigué. Pourquoi son cousin, en général moins distrait que les voyants, avait-il oublié, ou feint d'oublier, le numéro de la maison où ils étaient attendus? Pourquoi avait-il prononcé d'un air vague 14, 15, 16, quand il savait bien pourtant que c'était 17? Il creusait cette énigme tout en faisant, à côté de Pierre et à grand barbotage dans l'eau chaude, sa toilette de voyageur barbouillé. 10 minutes plus tard, Madame Amande frappait à la porte et annonçait que le café était prêt. La petite chambre était une sorte de salle à manger, meublée d'une grande table ronde, d'un vieux bureau en noyer bien ciré près de la fenêtre, d'un immense plateau à desservir sur des pieds en X et de 6 chaises massives et dures, mais anciennes, et par conséquent de forme et de hauteur commode. À la fenêtre, un clair rideau de mousseline à volant tamisait le soleil sans l'assombrir. On apercevait une plate-bande bordée de buis où fleurissaient des asters mauves et de petits tournesols tardifs, gais et crânes dans leurs collerettes d'or. « Vous ne reconnaîtrez pas le pain de Paris, » dit Madame Amande. « Des miches croquantes, on n'en fait plus. C'est du gros pain et pas du sucre pour votre café. Là, placez-vous. Le petit jeune homme peut s'occuper de vous, je pense. » « Le petit jeune homme est là pour ça, » fit Rick avec entrain. « Et le petit jeune homme s'appelle Frédéric Lebrou, madame, mais plutôt Rick dans la vie ordinaire, et si vous voulez bien m'appeler Rick, vous me ferez un sensible plaisir. » Toute sa joie d'être à Paris se ranimait, car ces deux jolies chambres, cette hôtesse cordiale, n'étaient-elles pas à lui, sous la protection de Pierre, et ces quelques mots ne signifiaient-ils pas tout ce qui est cher à une âme de 15 ans? La liberté, l'amitié et la nouveauté. Te voilà bien content, dit Pierre. Allons, verse le café, et puis tu me décriras un peu notre domicile pour que je m'y retrouve vite. Le café était délicieux, comme il ne l'est qu'à Paris. Le pain était meilleur qu'en Suisse à ce moment-là. Mais tout de même, dit Rick quand il eut déjeuné, puis décrit la pièce et ses meubles, s'attardant au mérite du bureau de noyer qui avait une foule de tiroirs et un grand battant sur lequel on pouvait écrire et derrière lequel s'étageaient d'autres tiroirs plus petits, tout cela fermant à clé. « Tout de même, Pierre, tu me fais bien attendre. » « Le mot de l'énigme, dit Pierre en riant, c'est que, vois-tu, maintenant je me demande ce qui m'a pris. Un soupçon, bête comme tout. » Tu n'as rien remarqué, toi, dans la prononciation du type qui s'appelle Matignon Auguste? Un petit rien, une ombre d'accent, disons alsacien pour être poli. Matignon n'est pas un nom alsacien, fit observer Rick avec sagacité. Tu l'as dit, jeune phénomène. Et alors, pourquoi le bonhomme, qui parle bien français d'ailleurs, a-t-il ce rien d'accent? Il m'a semblé, quand il se fâchait contre le bureau des marchandises, qu'il prononçait « Administration, c'est un mot difficile à dire, et j'ai trouvé singulier qu'il nous traite de sauvages d'Afrique. Et puis, pas d'obligeance pour un camarade blessé. Tu ne trouveras pas beaucoup de gens en France pour marcher les mains vides à côté d'un soldat aveugle qui porte un colis lourd comme ma machine à écrire. Tout ça m'a trotté dans l'esprit, mais surtout, j'écoutais chaque phrase de Matignon pour surprendre l'accent. » Tout à coup, il m'est revenu en mémoire un incident qui s'est passé dans un secteur du front. Un officier, uniforme français très correct, papiers en règle, visitait notre secteur avec une mission. Notre colonel était là, son petit œil froid comme l'acier suivait le visiteur. Qu'est-ce qui l'avait rendu méfiant tout à coup? J'étais à 2 pas, à mon créneau. J'entends le colonel qui dit « Capitaine, vous êtes alsacien ?» « Mais non, mon colonel, je suis de Poitou. » Il prononçait un peu « Poitou » comme un vrai poitevin. « Ah !» fait notre colonel sèchement. « Dans ce cas, capitaine, faites-moi le plaisir de compter depuis 10 jusqu'à 20, un peu rapidement, n'est-ce pas ?» Je te jure que j'ai vu le capitaine changer de couleur. C'était un ordre, il n'y avait pas à discuter. Le voilà qui s'embarque à compter 10, 11, etc. Or, remarque ça, Rick, il n'y a pas un boche, même s'il parle français comme à l'académie, qui puisse prononcer convenablement tous ses X et tous ses Z. Ça va bien jusqu'à 14 peut-être, mais ça se gâte à 15, et 16, ça l'achève, parce qu'il y a là un S et un Z. 17, 18, c'est la débâcle. L'officier, qui se trouva être un espion boche vraiment bien camouflé, n'avait pas prononcé 18 qu'il avait la main d'un sergent au collet. J'ai appris le lendemain qu'on l'avait fusillé après une courte enquête. Il avait les papiers et l'uniforme d'un capitaine français tué la semaine d'avant. « Ce culot !» s'écria Rick. « Oui, un genre de courage. Il aurait passé comme une lettre à la poste sans ce flair de notre colonel. »« Et alors, Matignon ?» interrogea son jeune cousin anxieux. « Qu'en penses-tu toi-même? A-t-il bien dit 16 ? Tu n'as pas fait attention ? Eh bien, il a dit 16. Mais nous ne sommes pas au front. Un embusqué d'usine a le droit de dire 16. On ne le fusillera pas pour ça. La consigne est de ne pas trop se fier à Matignon pour l'instant. » Une minute après, pour chasser cette image ennuyeuse, Pierre reprit « Et si tu veux, mon poteau, puisque nous sommes rafistolés, allons faire un tour. Au premier kiosque que tu verras, nous achèterons un plan de Paris avec les stations du métro et les monuments. Tu l'étudieras pour nos courses du dimanche. La malle ne viendra que plus tard, nous déballerons ce soir. Il me vient une idée, allons au bus Chaumont. Nous prendrons le métro pour y être plus vite, nous déjeunerons à midi dans un petit restaurant de ce quartier pas cher, et puis nous descendrons tranquillement la rue de Belleville, le faubourg du Temple. Tu verras le Paris du peuple et rien ne nous empêche de flâner ensuite sur les grands boulevards jusqu'à la Madeleine. Nous rentrerons par le métro quand nous voudrons. Avec le métro, mon vieux, on arrive à tout, même à la Chambre des députés. Tu achèteras en route deux belles cartes postales, nous les écrirons dans un bureau de poste et nous les confierons aux soins lents mais sûrs de Madame Anastasie. Ça colle, mon poteau ? Est-ce que je saurais trouver tout ça ? Demanda Rick, le front barré d'inquiétude. Ne te carbonise pas, avec moi, dit Pierre, tu verras plus clair que si tu étais seul. Oh, quelle ineffable journée, cette première journée de Paris ! Les bus Chaumont, avec le belvédère, les petits ponts, les essaims de mômes drôles où Poulbeau trouve ses modèles, et puis, Belleville grouillant de permissionnaires, de jeunes ouvrières en cheveux à l'heure de midi, et après, ce monument de la République autour duquel Rick voulut tourner pour expliquer à Pierre tous les bas-reliefs, et puis, le luxe des grands boulevards, de leurs foules, de leurs magasins, malgré la sourdine que la guerre y a mise, et la Madeleine, où ils montèrent par d'infinis degrés. « Assez, dit Rick, j'en ai vu assez, ma tête éclate. » D'ailleurs, c'était le moment de rentrer, de dîner, de s'occuper de la malle. « Oui, la malle était arrivée, il n'y avait pas un quart d'heure, » dit Madame Amande. Et la bonne dame ajouta, « En général, mes locataires mangent au restaurant. Mais vous deux, si ça vous allait mieux... » « Le petit jeune homme est bien jeune, et vous, monsieur Royat, comme vous n'y voyez pas, ça vous gênerait peut-être tout ce monde de restaurants. Outre que ça ne peut jamais être bien propre. J'ai réfléchi, pour peu que ça vous aille, mes petits, je vous nourrirai. Même prix qu'au restaurant, simple mais bien préparé, comme chez soi. Vous pourriez toujours essayer pendant une semaine. » « Madame Amande, déclara Pierre, je n'ai plus de maman, mais je vous embrasserai volontiers à sa place. » Ce qui fut fait, et Madame Amande eut du coup deux enfants, et les deux petits eurent une maman à Paris. Dès qu'ils eurent fait honneur au dîner, Pierre et Rick se hâtèrent d'ouvrir la grande malle qui contenait leurs effets à tous les deux, quelques livres, le buvard de Rick dont Lucette lui avait fait cadeau au moment du départ, des cahiers de cours, une petite provision de papier à lettres, deux ou trois photographies dans leur cadre. Cela faisait un fond de malle bien plat sur lequel les vêtements et le linge étaient rangés en couches serrées. Rick, impatient de remplir les quatre grands tiroirs de la commode, se hâtait de tirer, de nommer les objets, de passer à Pierre ceux qui lui appartenaient, car Pierre organisait lui-même ses deux tiroirs. « Nos effets dans la commode, c'est très bien, dit-il. Mais les papiers dans le bureau qui ferme à clé, et surtout mon portefeuille que j'ai porté sur moi tout le temps, car j'y ai mis mes notes et les dessins importants que le contremaître de M. Martin a fait sur mes indications. Ça, Rick, tu comprends, c'est ma fortune. Deux ou trois brevets, peut-être. Dans les moteurs, le champ des perfectionnements est illimité. Quand tu auras fini de vider la malle, tu me feras la topographie du bureau. » C'est drôle, dit Rick. Voici que mes souliers neufs que j'avais emballés dans le coin à droite sont au milieu. Et on a touché à mon buvard, s'écria-t-il avec indignation. Le cuir est écorché autour de la serrure. La douane a le droit de visiter les papiers, fit observer Pierre. Ce sera à Paris, alors, puisqu'on n'a rien ouvert à Pontarlier. Et on nous a laissé un souvenir, poursuivit Rick, qui avait la moitié du corps enfoui dans la malle. Vois, Pierre, ce que je trouve. Vois, Pierre, ce que je trouve. Il lui tendait un large bouton de manchette en nacre, à tige pliante, orné dans le milieu d'un petit fil d'or, tortillé à peu près comme un huit. Pierre tâta l'objet, sentit qu'une des branches articulées manquait. Ça ne tenait que d'un côté, dit-il. Comme le bouton est lourd, il est sorti facilement de la boutonnière, et puis il aura roulé au fond de la malle. Il n'y en a qu'un. La malle est vide, répondit Rick, qui examinait d'un air chagrin son buvard égratigné. Notre malle aura été ouverte à l'octroi avant qu'on la remette au camionneur de l'usine. Tu n'aurais pas dû fermer ton buvard à clé. Mais l'a-t-on ouvert? Je ne crois pas. Ah, mais par exemple, on a fendu un des soufflets sur le côté pour vider la poche. Non, ça, c'est trop fort. Ma bime et mon buvard tout neuf. Tu as eu tort de le fermer à clé, répéta Pierre. Ne te désole pas, un peu de colle raccommodera le dégât. Cependant, fit-il au bout d'un instant, nous ne songeons pas à une chose. Comment a-t-on ouvert notre malle à l'octroi? Nous n'avions pas remis la clé à Matignon. Je me suis même dit une fois ou deux cet après-midi qu'il aurait dû nous réclamer la clé pour l'octroi, cas échéant. Il n'avait que le reçu de bagages. Et je serais bien surpris que l'octroi ait employé un crochet, un passe-partout, bref, un outil de cambrioleur. On aurait plutôt retenu la malle. Nous tâcherons de voir demain le camionneur de l'usine. En attendant, mets de côté le bouton de manchette. C'est une pièce à conviction, car on a évidemment fouillé nos effets. Demain, nous ferons notre petite enquête. Je serai Isidore Vautrel et toi, Rouletabille, s'écria Rick, qui avait la mémoire garnie du merveilleux Leblanc et du tragique Leroux. Non, non, fit Pierre en riant, je serai quelqu'un d'encore inédit, le détective Œil de Verre, et toi, tu publieras mes mémoires. Chic, approuva le futur chroniqueur, notre première aventure s'appellera Le mystère du bouton de manchette.